Voyage immobile, une création radiophonique de Valérie Cordy et Marc Doutrepont. Le 17 mars 2020, nous avons dû fermer la fabrique de théâtre, lieu de résidence d'artistes qui abrite le service des arts de la scène de la province de Hainaut. Toutes les institutions culturelles, mais aussi les bars, restaurants et magasins, ont été frappées du label « non essentiel » et fermées aussitôt. Cela a été comme un coup de massue. Informé, annulé, reporté, fermé. Une période extrêmement pénible et angoissante qui nous faisait défaire dans l'urgence ce que nous avions mis des mois, parfois des années, à construire. Le pire dans cette période de crise a été le vide et le manque de sens qui a envahi nos esprits et nos corps sur tout le temps de confinement qui a suivi. Quelques jours après le début de cette période inédite, j'ai eu la chance de recevoir une bouée de secours qui, je dois bien le dire, m'a véritablement sauvée. Pierre Emptin, alors directeur de la médiation de Point Culture à Bruxelles, m'a envoyé un mail pour me demander si j'acceptais de répondre, par écrit, à quelques questions. L'entretien serait ensuite publié dans le focus Art Culture et Confinement sur le site web de Point Culture. Au départ, j'ai failli dire non. Je me sentais épuisée. Je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver, d'autant que les questions étaient de haut vol. Comme au ralenti, les premiers jours, petit à petit, à force de relire les questions et de m'obliger à balbutier quelques réponses, j'ai été prise d'une frénésie d'écriture. Je me suis mise à taper, taper et encore taper sur mon clavier d'ordinateur. Une fiction était née, une forme et un contenu ont vu le jour. Des personnages et des lieux particuliers se sont imposés. Ce texte, vous allez l'entendre. Il est maintenant devenu une création radiophonique. Allons-y. J'entends déjà Valérie Cordy, ici renommée Valérie C, marmonner les questions de Pierre Emptin, ici renommée Pierre H.
Comment ça se met en récit dans un théâtre une telle crise sanitaire? Parce que les opérateurs culturels ne sont pas des opérateurs de calcul, on ne va pas se focaliser sur l'impact quantifiable, dans l'expérience d'une équipe culturelle, dans le borinage. Ça se noue avec quel vécu, quels échanges, quelles remarques et réflexions, quels partages.
S'il fallait mettre en récit la crise sanitaire, Valérie C. hésiterait entre plusieurs styles littéraires. Leur mise en relation tracerait une narration aux multiples facettes. Cela pourrait être une tragédie. Le cœur s'avancerait sur une scène dans le noir vers la lumière. Ou une enquête menée par une journaliste indépendante. Cela pourrait également être une autofiction, un récit à la première personne, un témoignage qui serait suivi d'autres témoignages. Et pourquoi pas de la science-fiction, peut-être même à la Damasio. Au tout début de la tragédie, le cœur resterait silencieux, ne sachant que dire. Le coryphée raconterait avec précision comment une équipe dédiée aux arts vivants a fermé une à une les portes des salles de répétition et de spectacle, des ateliers de construction de décors, de marionnettes, des salles de cours et de matériel. Chaque tour de clé comme un déchirement, un silence. Le récit reprendrait et expliquerait comment des messages ont été envoyés à la hâte dans l'océan de données, pour informer, reporter, annuler, vider totalement les agendas, les plannings des semaines à venir. En écho à la tragédie qui se nourrait quelque part en Belgique, dans le borinage, se ferait entendre la voix d'un autre récit, un narrateur écrivant depuis Rome dans l'urgence.
Tandis que l'épidémie progresse, j'assiste à l'effritement de mon calendrier. Cette crise est en étroite relation avec le temps.
Le temps. Il aura fallu se presser, fermer très vite un outil essentiel à tant d'artistes, de techniciennes et techniciens, de publics, d'étudiantes et étudiants, pour entrer dans un autre temps. Celui de l'isolement, de l'attente. Un temps dont la nature même semble être la suspension. Mais ce n'est pas tout. Nous comprendrons plus tard qu'il s'agissait aussi d'une question d'espace. Celui où désormais chacun et chacune, en fonction de ses moyens financiers, se déplacera de la cuisine à la salle de bain et du salon à la chambre. Nous ne sommes malheureusement pas tous et toutes des Georges Perec. Ce serait pourtant formidable de jouer à épuiser nos espaces pour passer le temps. La chambre, le salon, la cuisine, la chambre, la salle de bain, le salon, la cuisine, la chambre, la salle de bain, le salon, la cuisine. Valérie C. raconterait son histoire.
Fin janvier, j'ai accepté de faire une performance le 11 mars 2020 à Milan pour la Digital Week. Je me réjouissais de croiser la mythique Laurie Anderson qui avait confirmé sa présence. Je ne suis jamais allée à Milan. Je demande à l'organisation de prendre le train plutôt que l'avion à cause déjà du coronavirus. Le 3 février, je leur envoie un message. J'ai trouvé des billets de train pas chers. Le 21 février, je reçois par mail l'affiche du spectacle. Le 24 février, je demande aux organisateurs s'ils sont sûrs que le spectacle aura bien lieu parce que j'ai lu la presse. Je suis inquiète. Depuis Milan, la voix qui me répond au téléphone décrit un délire médiatique. 2 jours plus tard, le spectacle sera annulé par les autorités. Le même jour, le 26 février, une première circulaire officielle arrive dans ma boîte mail professionnelle. Il s'agit d'une information sur le coronavirus, Covid-19. La maladie n'est pas très sévère, raison pour laquelle les quarantaines ne sont pas organisées. Il n'y a pas lieu de céder à la panique. Y céder causerait davantage de dommages, économiques et en termes de santé publique, que le virus lui-même. À la fin du document, des images montrent comment se laver les mains. Je trouve cela presque navrant. On m'a appris que pour traverser une rue, il faut regarder à droite, puis à gauche, ou le contraire, mais toujours traverser dans les clous. On imprime le document et on l'affiche. Je ne peux exprimer ici comment les événements se sont enchaînés pour nous. Quelques flashs, des absences pour maladies de plus en plus nombreuses, l'arrêt des accolades et embrassades. Les 2 dernières présentations de spectacle, la volonté inébranlable des artistes. Dans ma boîte mail, un document de mise en quarantaine d'un médecin généraliste, des communiqués de presse, et finalement, arrive le 17 mars 2020.
Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille ou leur nature, qu'elles soient de manière publique ou privés, sont annulés. Il en va de même pour les discothèques.
Ce jour-là, je m'envoie un mail à moi-même intitulé « Test » pour être sûr que ma boîte mail est encore active. Je ne reçois aucun mail depuis quelques heures. Le silence s'installe tandis que la Belgique attend la conférence de presse du CNS, Conseil national de sécurité. Je crois entendre CNR, Conseil national de la résistance. Je souris de ma bêtise. C'est la sidération. L'inimaginable se produit. Je quitte le navire. Je rentre chez moi.
La jeune journaliste commencerait son enquête dans cet endroit de l'outil déserté, quelques jours après la fermeture, et, voyant toutes les plantes des bureaux réunies dans le hall d'entrée du bâtiment, se poserait une première question, une étrange question.
Il a fallu isoler les humains, mais pourquoi regrouper les plantes? Y a-t-il une relation entre les deux événements? Et si oui, quelle est-elle exactement?
Le cœur de la tragédie, une fois que la porte principale donnant sur la rue aura été définitivement fermée, s'avancerait très lentement vers le public invisible, comme dans la première scène du Requiem de Mozart, mis en scène par Casselucci. Un lit, une télévision allumée, un fruit, une vieille dame. Une musique aérienne comme la présence invisible d'un groupe d'humains. La vieille dame qui finit par se coucher. Il doit être tard. Une fois dans les draps, sous la couverture, elle s'enfonce à l'intérieur du lit très lentement, théâtralement, jusqu'à disparaître totalement. Et le narrateur italien reprendrait.
Nous aimerions retourner à la normalité. Et si nous y réfléchissons attentivement, nous ne savons même pas très bien en quoi elle consiste. Elle est ce que nous exigeons qu'on nous rende.
Le cœur est à peine sorti de l'ombre. 1000 couleurs envahissent le plateau. Le cœur chante la mort de la vieille dame. Et cette vieille dame n'est pas encore un corps de chair, mais notre normalité, le quotidien de nos vies, tous deux enterrés brusquement. En tournant quelques pages de l'enquête en cours de la journaliste qui pourrait s'intituler « Histoire d'une pandémie au XXIe siècle », nous retrouverions G. Appelons-la comme ça. Décrivant cette scène qu'elle a rêvée, en pensant à ce qui arrive aujourd'hui à nos amis, nos familles, qui disparaissent, seuls, sans laisser de traces dans nos corps, ni de mémoire de leurs derniers instants dans nos esprits. Le jour suivant, elle aurait la vision de deux portes, celle d'un hôpital, la porte où l'on entre et d'où l'on sort, et celle d'où l'on ne fait que sortir. Alors le cœur de nos lamentations pourrait bien réapparaître et supplanter le bruit de fond des actualités et le vacarme du confinement, chantant une double injonction à la Tchekhov. Valérie C. replongerait alors dans les questions de Pierre H.
Quelle analyse faites-vous du surgissement de l'épidémie, de la crise sanitaire, du confinement? Est-ce une parenthèse? Ou le symptôme de quelque chose de plus profond découlant du mode dominant de la société, de son impact négatif sur la biosphère?
La journaliste se souvient de ce cachalot échoué sur la digue du canal de Bruxelles. Le corps gigantesque et sans vie lui avait semblé une bonne métaphore des bouleversements à venir de nos écosystèmes. Elle se demande si cette crise ne serait pas, comme Pierre H. semble l'indiquer, le symptôme de quelque chose de plus profond, découlant du mode de vie dominant de la société, de son impact négatif sur la biosphère. Une bonne piste, se dit-elle. Elle vient justement d'entendre parler d'un ouvrage qui doit sortir bientôt, « Les sentinelles des pandémies » de Frédéric Keck. Par chance, la préface de Vinciane Després et le premier chapitre sont en ligne. Elle lit
« Les virus ne sont pas des entités intentionnelles visant à tuer des humains, mais plutôt le signe d'un déséquilibre entre les espèces d'un écosystème. » Nous aurions pu prêter l'oreille aux signaux à faible fréquence, qui, bien que peu apparents et cachés dans les brouillages médiatiques, annoncent toujours, pour qui sait les entendre et les comprendre, des tendances, voire des événements importants. Pour elle, il n'y aurait pas de surgissement de l'épidémie, mais bien un surgissement de notre sidération. Pourquoi et comment avons-nous oublié notre condition incertaine d'êtres humains?
Cette question ne semble pas se poser pour l'instant. Edgar Morin nous rappellera à notre condition quelques jours plus tard.
La crise épidémique, nous dit-il, doit nous apprendre à mieux comprendre la science et à vivre avec l'incertitude et à retrouver une forme d'humanisme.
Une autre voix, désagréable celle-là, sortant d'un haut-parleur de romans de science-fiction, vociférerait quelque part dans les rues déjà désertes.
Vous ne correspondez pas aux critères. Les services non essentiels ne peuvent rester ouverts que s'ils peuvent assurer obligatoirement le télétravail.
Une personne dans la boutique. Je veux voir un client, quoi qu'il aille.
L'espace. On est là pour vous. Respectez les consignes. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant, vous gardez un mètre de distance, là.
Un mètre. C'est pas bien, mètre.
Et vous sortez les attestations et vous...
Pendant ce temps-là, depuis sa chambre, Valérie C., agacée.
Bienvenue à Covid-Land, me dis-je. Je tente d'imaginer ce que pourrait être un théâtre de la distance sociale, où les répétitions se feraient par télétravail et les représentations en live Facebook. La distanciation de Brecht est un effet. Cela ne m'aide aucun secours à ce moment précis.
Le secteur du récréatif, c'est-à-dire ce qui a pour objet ou pour effet de divertir, doit fermer ses portes. Renvoyés à la cour de récréation, nous qui faisons la culture au quotidien, sommes d'un coup réduits à la notion de divertissement. Entendez littéralement ce qui détourne d'une préoccupation. Et ça continue à crier.
Activez-vous ! C'est bien compliqué ! Respectez un mètre !
Les chefs parlent de guerre. Pourtant, même en temps de guerre, les théâtres et les cabarets restaient ouverts. De quoi s'agit-il donc ici ? Quelle est cette nouvelle réalité ? Valérie C. s'interroge.
Je lis frénétiquement où je peux, ce que je peux. Les librairies et les salons de coiffure peuvent rester ouverts. Ah oui, non, dans ce pays, on confond librairie et point presse. Pardon. Et les salons de coiffure ? C'était une erreur. Ils ferment immédiatement. D'accord.
Le virus et la maladie qui en découle et nous tombe dessus n'ont pas de sens dans l'absolu. Les anciens nous chuchotent à travers les âges que c'est une fatalité inhérente à la condition humaine. C'est le cœur qui chante son malheur d'être sur la terre. J'ai, en bonne journaliste, grommelle.
Nous ne pouvons plus nous contenter de la fatalité, nous avons changé. Nous avons besoin de donner un sens à chaque chose. Nous devons nous méfier de la stratégie du choc.
Virilio écrivait « Le naufrage existe parce que l'homme a inventé le bateau ». Ici, qu'avons-nous inventé exactement ? N'avons-nous pas plutôt perdu quelque chose ? Comment notre quotidien a-t-il pu s'évanouir aussi vite ? Valérie C., depuis sa chambre.
Je vais alors m'enfoncer dans le sommeil pendant quelques jours, ne me lever que pour parer au plus pressé. Mais quel est le plus pressé ? L'organisation. L'organisation de quoi ? Je ne sais même plus. Mail du 20 mars 2020 dans ma boîte vide. J'espère ne pas vous avoir contaminé. Je compte les jours pendant que d'autres se battent contre la maladie. Tout le monde compte les jours. Pas ceux du confinement. Ce compte-là viendra plus tard. Notre vie de cigale s'est brusquement interrompue. Comme des fourmis, nous nous sommes précipités dans les supermarchés faire le plein de papier toilette.
Dans le Hainaut, nous sommes particulièrement touchés. Les morts vont s'accumuler et endeuiller nos proches. Karl Norak, poète national, invite les poètes du pays à écrire pour fleurs de funérailles. Les applaudissements ont déserté les salles de spectacle pour atterrir sur les balcons. Certains ricanent. Les blouses blanches ne sont pas dupes. Érigées en héroïnes, elles sont les futures sacrifiées qui préservent la légitimité des institutions, dont le vocabulaire guerrier contamine nos cerveaux, comme nos corps le sont par le virus. Il y a pourtant dans ce manège de balcon quelque chose du cœur de la tragédie qui persiste. Peut-être du commun qui tente de percer.
nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.
Mais revenons à la chambre de confinement de Valérie C. et aux questions de Pierre H.
La fermeture des lieux culturels non marchands, le confinement généralisé, n'est-ce pas un tapis rouge déroulé pour les grandes plateformes numériques ? Ne voit-on pas en ces circonstances combien la vie culturelle du plus grand nombre devient dépendante de ces dispositifs ? Les institutions non marchandes sont bien fragiles par rapport à ça.
Dans le haut-parleur de Covidland, on crie.
Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur...
Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous aider à mettre en place une structure qui permet de réduire la journée de confinement des petites séances.
Besoin de
structure pour nos adhérents.
Je vous donne quelques conseils.
Besoin de structure.
Il est vrai que le problème entre tout le monde enfermé chez soi, en fait...
Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, tout seul à main, il y a ça. Bon, le vrai truc positif, c'est qu'on a du temps pour lire des livres, écrire, peindre, faire de la musique.
Nous sommes à peine entrés dans notre nouvelle vie de confinement qu'une déferlante s'abat sur les réseaux sociaux. Injonction à télécharger gratuitement livres, films, se connecter, streamer des concerts, des spectacles, des conférences, des moments comptés pour nos petits. Intérieurement, je dis non. J'ai tant besoin de silence. Quelques voix s'élèvent, me soulagent. Par exemple, Thibaut Croisy. Ce qui vaut la peine d'être relevé, c'est surtout l'incapacité du théâtre à faire le vide, marquer une pause, un temps, rien qu'un entracte au fond. Dire simplement « soit ». Disparaissons un instant si vous le voulez bien et revenons un peu plus tard quand tout sera fini. Ou Mathieu Berthollet. Je pense qu'il est urgent de faire une pause. Profiter de cette pause pour penser et repenser la manière dont on fait du théâtre. Je profiterai vraiment de cette opportunité pour rappeler que ce que l'on fait, c'est du théâtre et pas de la communication.
Le cœur déchire l'air avec des paroles cinglantes.
C'est la saison des seconds couteaux.
Lisant la préface de Vinciane Després au livre Les Sentinelles des Pandémies, G, la jeune journaliste, pense qu'il pourrait s'agir d'une maladie de la relation. La métisse, en Grèce antique, était le fruit d'une connaissance intime, de longues pratiques de proximité, encore et surtout, d'une reconnaissance de l'indéniable intelligence d'autres êtres vivants. Ce sont visiblement les ruptures multiples de cette composition particulière sous le signe du même intelligence que traduisent les pandémies. Le narrateur italien reprend.
Si les humains qui interagissent entre eux étaient reliés par des traits de stylo, le monde serait un unique et gigantesque gribouillis.
Avant la pandémie, G a également lu « Habiter en oiseau » de Vinciane Després. Écoutons-la.
Comme les animaux ne parlent pas, quelle relation pouvons-nous entretenir avec eux ? Il faudrait également lire de la même autrice « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?»
Valérie C. est d'accord.
D'excellentes lectures de confinement. Ne pas oublier d'en parler à Pierre H. quand il me posera la question.
Dans Les Sentinelles des Pandémies, Keck s'attache à décrire la transformation des relations entre les humains et les animaux, du fait, par exemple, de la déforestation, les animaux sont obligés de s'approcher des villes, et de l'augmentation des volailles élevées de façon industrielle. Depuis deux siècles, nous serions prisonniers d'une coupure entre animaux et humains qui justifierait que l'on puisse abattre massivement des animaux soupçonnés d'être contaminés et de transmettre des virus aux humains. Cette coupure s'offre à voir de la même manière quand nous découvrons sur nos écrans les images des animaux reprenant leurs droits, dans les villes, les ports, les endroits habituellement suroccupés par les humains. Les canards devant la Comédie Française à Paris, les poissons et les cygnes à Venise, les sangliers à Barcelone, les cerfs à Tokyo, les dauphins aux abords des quais du port de Cagliari. Valérie C., fascinée.
Qu'est-ce qui me plaît là-dedans ? L'idée que nous pourrions cohabiter, que cela nous rendrait une part de bonheur ? Et pourtant, dans la réalité de ces virus, c'est la proximité entre l'humain et l'animal qui permet aux agents pathogènes de sauter d'une espèce à l'autre.
Mais revenons à G. toujours absorbé par ses lectures et le flux des images trouvées sur Internet.
Que racontent ces images? L'impossible relation? Nous sommes dans l'incapacité de leur laisser une place? Juste que ça nous plaît de les voir circuler comme dans une réserve à ciel ouvert pour notre propre plaisir? Nous ne pensons jamais à eux, à leurs désirs, à ce qu'ils ont à nous dire. Et surtout, nous n'imaginons pas un instant que leurs déplacements dans nos villes ont peut-être une toute autre raison. Certains, abandonnés par l'humain dans les refuges, les eaux, les campagnes, ont peut-être tout simplement faim.
Le cœur se lance dans un nouveau chant, récite lentement qu'il serait souhaitable de décélérer après cette crise, sans y être obligé par le confinement tel que nous le vivons aujourd'hui. Qu'il faudrait décoloniser des terres et les rendre à la nature. Vous souvenez-vous de ce photomontage d'un hippopotame pataugeant dans le canal de Bruxelles, plané sur un réseau social? Un mème qui a rejoint illico la collection de Valérie C. Au même moment, dans le monde numérique de Covidland, se déroule sur nos écrans un étrange événement qui, par séquence organisée, fait apparaître des photos d'enfants dans les fils d'actualité. Signe de la mort de nos innocences? Tout le monde y participe, tout le monde envoie sa photo. C'est dingue. Valérie C, consternée.
Tous ces enfants ne sont plus, n'existent plus. Ils sont donc morts.
Le cœur chante comment les enfants ont été jetés en pâture au big data, sacrifiés à la recherche sur la reconnaissance faciale. Nous approchons du récit de science-fiction. Sera-t-il celui du déconfinement? Suivrons-nous les recommandations des puissances asiatiques? La jeune journaliste fait un lien avec les films d'horreur où l'on voit souvent des enfants maléfiques dans de longs couloirs nous dévisager et nous terrifier. Souvent des petites filles. Encore une question de genre qu'il faudra interroger. Mais G ne souhaite pas se détourner de son enquête. Elle lit un article de la journaliste Amélie Bruers sur les réseaux sociaux, un petit jeu qui n'est pas sans conséquences. Je cite « Ce challenge Facebook fait partie d'une longue série, la NEC nomination, c'est-à-dire désigner le prochain ami qui devra boire de l'alcool cul sec ou le Ice Bucket Challenge, comme vider un seau d'eau glacée sur sa tête pour sensibiliser à la maladie de Charcot ou le Beat Challenge, poster une photo de soi avec un soutien-gorge sur les yeux. Drôle, bête ou dangereux, il y en a pour tous les goûts. Défi orwellien ou simple jeu? G s'interroge.
Pourquoi ce jeu me met-il mal à l'aise? Une personne s'exécute et doit contaminer trois autres personnes. L'indicateur mathématique R0, la mesure qui permet de dire combien de personnes seront contaminées par une seule personne, est de 3. Entendre trois personnes, comme le coronavirus.
Valérie C, toujours devant son écran, vient de recevoir un mail.
Pire, sans doute. La chaîne de mails lancée par Donna Haraway. Comment résister et ne pas répondre à cette grande dame qui nous invite à envoyer des poèmes? Le système mis en place présage d'une contamination exponentielle et mondiale en quelques jours. J'ai déjà reçu 3 demandes. J'hésite.
Cet épisode des photos d'enfants a fini par laisser la place à d'autres images. Des tutoriels, des patrons de masques artisanaux. Le cœur a repris. Maintenant, il coud, inlassablement, dans l'ombre de ses ateliers personnels et autres arrière-cours d'immeubles. Et ce faisant, dévoile la face cachée des années d'austérité et de réforme d'un monde devenu néolibéral, destructeur de nos services publics. Le monde de Valérie C, quant à lui, repart. Enfin, façon de parler.
Mon agenda se remplit à nouveau de réunions pour le travail et d'apéros pour la détente. Sur Zoom, Skype, Messenger, WhatsApp. Je cherche des alternatives. Jitsi, Open Meeting. C'est difficile à départager. Avec notre nouveau statut de confiné, on s'habitue petit à petit à vivre dans nos écrans, enfermés chez nous.
Tandis que le cœur égrène le nombre de morts, mais rarement leur nom, que les courbes continuent à monter inexorablement jusqu'au pic, tragédie, enquête, narration, autofiction et science-fiction deviennent un tout qui commence à muter tel le virus lui-même et se raconter dans une sorte de boucle rétroactive. Et pourrait s'ajouter à cela la crise économique et financière. Y aurait-il encore, à ce moment-là, une mise en récit possible ? Mais Pierre H. attend son texte.
Quels apprêts ? Vous avez déjà une programmation sensibilisée aux enjeux de société. La crise actuelle vous encourage dans cette voie. Elle vous inspire d'autres types d'actions, d'autres initiatives. Elle vous fait entrevoir d'autres urgences. Je me dis qu'il exagère, ce Pierre H. C'est trop tôt, même si je commence à entrevoir des pistes.
Le cœur reste silencieux. G trifouille dans ses notes. Le haut-parleur s'est tu. Valérie C. regarde ailleurs.
Personne ne veut répondre à cette question. Nous avons déjà compris que nous serons dans les derniers à être déconfinés.
G finit par prendre la parole. Le sujet de son enquête s'est déplacé, il y a urgence.
En Belgique, la Task Force Data Against Coronavirus a déjà mis en place un système de surveillance généralisé. Les premières informations qu'ils ont lâchées le 28 mars 2020 sont proprement inquiétantes, même s'ils assurent que les data extraites sont anonymisées. Les Belges sont restés 79% de leur temps dans la zone de leur domicile. Nous sommes cartographiés en temps réel, géolocalisés, piégés comme des rats de laboratoire.
Le cœur continue à se mouvoir lentement, mais maintenant observe une ronde autour de nous. Nous englobe. C'est presque effrayant. Valérie C. répond à Pierre H. Elle écrit.
Afin d'être bien conscient des développements des technologies et de leurs effets sur nos sociétés, nous avons mis en place un dispositif d'expérimentation qui, en réunissant sur le même plateau des artistes, qu'ils viennent du numérique, de la scène, qu'ils soient plasticiens ou musiciens, et des scientifiques, chercheurs, théoriciens, philosophes, sociologues, propose de dépasser les définitions strictes des disciplines. Ainsi, les mondes scientifiques et académiques peuvent se confronter et cohabiter avec la création artistique. Afin d'aller plus loin, les rôles de public, d'artiste et d'intervenant sont interchangeables. Il est pour nous essentiel que de tels espaces et moments, pour expérimenter et présenter des formes qui interrogent nos réalités, existent. Je repense à cette pratique essentielle de l'expérimentation qui nous oblige à sortir du cadre strict de la représentation pour créer, interroger sans peur de se tromper ou de déplaire. Sans doute faudrait-il aujourd'hui intensifier ce type d'action.
G parle des mesures possibles lors du déconfinement. Elle a l'air enragée.
Avez-vous entendu parler de ce jeune développeur français qui peut mettre en circulation une application capable de repérer par géolocalisation les personnes à risque ? C'est pour juguler l'épidémie de Covid-19, dit-il.
Nous sommes face à quelque chose de plus grand qui mérite notre attention et notre respect.
L'attention pour ne pas parler du respect. Voilà bien ce qui nous manque cruellement. Nous sommes victimes d'une vague épidémique qui capte totalement notre attention et met nos pensées en boucle. exactement comme le 11 septembre 2001, exactement aussi comme lors des attentats de Paris et Bruxelles. Nous sommes divertis de nos préoccupations et pendant ce temps-là, nos libertés s'effritent. De la gestion du terrorisme à celle du coronavirus, il n'y a qu'un pas. Frédéric Keck réapparaît. La faune sauvage est passée des pages nature des journaux aux images des couvertures des magazines représentant les foyers de grippe aviaire comme des attaques terroristes. G, toujours aussi fébrile, reprend.
En Belgique, Dalberg Data Insight, une entreprise privée spécialisée dans la gestion des territoires contaminés, collecte les données de Proximus, Telenet, Orange. Bientôt, nous serons des personnages de Damasio, comme dans Les Furtifs. Nous nous verrons attribuer des niveaux de liberté de circulation.
Le comité invisible glace brusquement la conversation. Ce ne sont pas les raisons qui font les révolutions, ce sont les corps. Et les corps sont devant des écrans. Tout le monde se retourne. Il n'y a personne. Le cœur implore. Heureusement, même dans ce monde, il y a les bandes dessinées à l'aquarelle de Pignocchi. Valérie C. est justement en pleine lecture du petit traité d'écologie sauvage.
Finalement, il n'y a que l'œuvre d'Alessandro Pignocchi qui réussit à me calmer sur l'après. Un épisode ne suffit pas. Je retourne me coucher.
Dans sa chambre, Valérie C. vient de s'éveiller. Elle est devant son ordinateur. Elle lit une autre question de Pierre H.
Beaucoup écrivent qu'il faut éviter un retour à la normale. Entendez la norme capitaliste destructrice de l'écosystème. Des sociologues, des politologues, des juristes, des économistes, des philosophes, mais très peu parlent de culture. Est-ce un oubli, un aveuglement ? Quelle serait la place de la culture pour penser un « après » à la crise sanitaire, penser des modes de vie en meilleure relation avec les autres espèces, y compris virales ? Exclamation, exclamation, interrogation.
Valérie C. tente une réponse.
C'est un moment très dangereux que nous vivons aujourd'hui. C'est perceptible. Les régimes démocratiques peuvent basculer à tout instant. Pour moi, le rôle de la culture est de réfléchir, pas uniquement en tant que discipline à part entière, au monde que nous voulons construire. Il ne s'agit pas de se penser comme secteur qui aurait une singularité ou serait une exception, mais comme participant à une intelligence collective qui doit et peut se mettre en place, à l'image de ce qui se déroule en ce moment même dans le monde scientifique. La culture est avant tout transversale. La sociologie, le droit, l'économie, la philosophie sont des disciplines traversées par la culture. Sans doute s'agit-il là d'une définition philosophique de la culture ? Peut-être faisons-nous une confusion entre l'art et la culture ?
G tente un autre type de réponse. Les médias, elle connaît bien. Elle dit qu'elle n'entend aucune parole politique pendant ce confinement. G est sur le web. Elle clique, cherche et tombe sur une vidéo YouTube de Bouly Lanners.
Les conséquences économiques que va avoir la crise sanitaire. Et il fait tout, il base tous ses chiffres sur une reprise du travail le 19 avril. Et on lui demande, vous êtes sûr que ça va reprendre le 19 avril ? Et le mec répond, écoutez, je ne suis pas virologue, j'en sais rien, je pense que ça va reprendre le 19 avril. Mais tout le monde sait bien que ça ne reprendra pas le 19 avril. Tout le monde sait bien que le confinement va continuer. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons, putain. Vous avez menti sur tout. Vous avez menti sur les masques, sur les tests. Vous avez envoyé des centaines de personnes au casse-pub dans les hôpitaux qui sont là sans protection. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. Il y a des gens qui souffrent. On joue tous le jeu. On respecte tous les règles. On est tous confinés de chez nous, du jour au lendemain. Et vous, vous continuez à passer à la télé en nous prenant pour des cons et en mentant. Non mais ça suffit maintenant, non ?
Valérie s'est toujours devant son ordinateur. Elle écrit inlassablement.
Dans le monde d'avant, j'avais un projet intitulé « État du monde ». C'est un projet artistique qui se transforme au fil de l'actualité et sera donc pertinent également dans le monde d'après, une fois les cartes rebattues. Il y a bien longtemps que je me revendique plus de Piscator que de Brecht. Le 11 septembre 2001 a fait basculer ma vie d'artiste. J'ai arrêté les productions sur le long terme, considérant qu'il ne fallait pas que le théâtre soit en retard sur l'actualité. Dans « État du monde », je suis sur scène, avec une invitée qui, de mon point de vue, transforme le monde, en l'interrogeant, en l'analysant et souvent en étant acteur ou actrice des changements à venir. Je ne dis pas un mot, mais on comprend tout. Assise à une table, face au public, je surfe sur le web, selon une improvisation millimétrée. Derrière moi, la projection en grand format de mon écran d'ordinateur nous raconte ce que je rencontre, traçant un récit inattendu et plein de sens. Une plongée inédite dans l'éther en temps réel, dans ce que nous voyons quotidiennement et que nous regardons autrement pour la première fois. L'invité a travaillé sur un abécédaire. Nous tentons de penser ensemble un état du monde, voire un autre monde possible.
Maintenant, plus que jamais, quand nous sortirons du trou dans lequel nous sommes tombés, il va falloir se mettre sérieusement à étudier la théorie du care. Lire ou relire Carol Gilligan et Joan Tronto, souvent vilipendés par cette société machiste et patriarcale. Un réseau social déverse. Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence. Dans sa remise en cause sévère du capitalisme, le care prône une société du soin, une attention portée à l'autre, à la culture et à tous les métiers qui prennent soin. Tronto affirme qu'historiquement, les tâches de soins ont été dévolues aux femmes et aux gens ordinaires. Revaloriser les activités de care revient ainsi à revaloriser les activités de ces personnes. Méthodologiquement, il s'agit de regarder depuis le bas de l'échelle, de s'intéresser par exemple à la maternité, au métier de l'éducation ou plus généralement au sale boulot de l'existence humaine. Finalement, Valérie C. répond à Pierre H.
Voilà, pour nous, l'après. Il s'agit de continuer, d'insister, de travailler plus, d'ouvrir encore plus grand les yeux et les champs de recherche.
Pierre H., infatigable.
Quel sera le premier rendez-vous après confinement ? Ce sera un rendez-vous d'équipe. Se retrouver enfin. Échanger nos points de vue sur ce moment de vie sans vie. Nous devrons également réparer les vivants. Sortir de cette maladie de la relation. Penser avec un E. Et penser avec un A, avec les artistes et les non-humains. Mons, le 15 avril 2020.
Le chœur alors se transformerait en chœur virtuel. 700 enfants italiens chanteraient l'opéra Nessun Dorma de Puccini sur toutes les plateformes virtuelles de Covidland. Le chant se terminerait par ces quelques mots qui font suite à une solitude prolongée du héros. À l'aube, je vaincrai. Tous les personnages de ce récit se regardent interloqués, un peu tristes de devoir se quitter là. « Nous ne connaissons pas la suite de l'histoire », se disent-ils. Ils remercient beaucoup Pierre H. de leur avoir donné l'opportunité de s'exprimer. Au fond, pensent-ils, ce moment de questions et réponses a été comme une bouée de secours pour ne pas se noyer. Valérie C., de nouveau seule dans sa chambre.
Je décide finalement de participer à la chaîne de Donna Haraway. Rien ne dit, dans le chant de la cigale, qu'elle sera morte ce soir. Matsuo Basho.
Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voyage immobile. Une création sonore de Valérie Cordy et Marc D'Outrepont. Une production de la Fabrique de théâtre accompagnée par la CSR et la RTBF. Texte, Valérie Cordy. Avec le soutien du Fonds Gulliver, une initiative de la RTBF. La promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SCAM Belgique, la SACD Belgique, la SCAM France, la SACD France, le Labo à la RTS et, par oui dire, à la RTBF, le podcast de la RTS et de la RTBF. Prise de son et montage, Marc D'Outrepont, composition musicale et habillage sonore, Guillaume Istas, mixage, Vincent Venet, avec les voix de Valérie Cordy, Aurélie Alessandroni, Marie Van Kutsem et Francesco Italiano. Chœur, son du quartier, dirigé et arrangé par Jolesco. Remerciements à Monsieur Paolo Giordano pour l'utilisation des citations tirées de son ouvrage Contagion. Fanny Brûlé-Cop, Julien Van Brusseghem, Johan Berger pour les essais de voix, Pierre Emptin pour l'interview, Pascal Tison pour son soutien et toute l'équipe de la Fabrique de théâtre.